Chapitre 10. Pendant qu'Aubrun suivait sa piste avec une confiance à peu près inébranlable, Gertrude recevait fréquemment la visite de son avocat et de ses bronnes. Avec précaution, M. Desjonchères lui apprit que l'affaire passerait aux assises dans le courant de l'été, ajoutant que, selon les plus grandes probabilités, son innocence serait reconnue bien avant la date fixée pour le procès. « Les assises ! » murmura-t-elle avec consternation. « Nous n'irons pas jusque-là, croyez-le bien. » Mais il vit que le coup était terrible et brisait une partie des espérances de la malheureuse femme. Elle était forte en apparence, mais sa pâleur, son expression, qui, de jour en jour, devenait tragiquement douloureuse, indiquait un fléchissement moral et physique. En voyant passer les jours et même les semaines, elle avait des accès de désespérance qu'elle combattait courageusement, mais qui laissaient des traces poignantes sur son visage. Elle ne voulait plus être questionnée et répondait invariablement au juge d'instruction. « À quoi bon ? Je suis innocente, les faits m'accusent et ce sont les faits que vous croyez. Si vous ne me croyez pas quand je crie mon innocence, pourquoi me croiriez-vous sur d'autres points ?» Madame de Plémont, toujours malade, bien que devenue consciente des événements, avait essayé de se lever pour venir auprès de sa fille, mais l'effort ayant provoqué un évanouissement inquiétant, Zébron imposa sa volonté et l'obligea à demeurer couché. Il raconta l'incident à Gertrude qui répondit « J'aime mieux ne pas la voir, ce serait déchirant pour elle et pour moi. Dites-lui de se soigner jusqu'à mon retour auprès d'elle. » « Dites-lui que je lis et travaille, que vos visites bénies me raniment, me consolent de tout. Répétez-lui que j'attends tranquillement la fin de cette cruelle aventure. » « Tranquillement, Gertrude, je lis dans vos yeux votre douleur grandissante. Vous vous désespérez. » « Non, je ne me désespère pas. C'est impossible avec une tendresse comme la vôtre qui me soutient, me transporte si loin dans une région ensoleillée. » Pauvre enfant, je vous aime trop pour ne pas pénétrer dans les pensées que vous ne dites pas. Mais reposez votre esprit dans la région dont vous venez de parler. Que de joie dans l'avenir, Gertrude, quand je vous emmènerai dans la propriété où mon enfance s'est déroulée. Nous y passerons le premier mois de notre union. Notre union, répéta-t-elle avec une intonation découragée qui fit tressaillir Zébron. Il attira à lui et, avec une tendresse inexprimable, porta la main de la jeune fille à ses lèvres. « Notre union, » dit-il avec une fermeté persuasive, « elle sera complète, absolue, plus encore que vous ne le supposez. Vous n'avez pas suivi l'évolution de mes idées sous l'influence des souffrances de ces dernières semaines. Vous ignorez que votre force d'âme, qui vient d'un sentiment religieux très élevé et très pur, a complété la leçon. » Vous achèverez de m'instruire et nous n'aurons qu'une âme, qu'une pensée. » Le cœur de Gertrude battait plus vite en écoutant de telles paroles qui la réconfortaient et lui faisaient oublier le lieu où elles étaient prononcées. Elle pénétrait plus avant dans un caractère loyal, dans une intelligence qui abaissait sa superbe avec simplicité pour aborder franchement des questions que Bernard savait lui être chères. Elle essayait d'entrer dans les projets d'avenir qu'il lui soumettait et le questionna sur la propriété dont il parlait. « Est-elle près de Paris ?»« J'ai une maison de campagne à 20 minutes de Paris, mais ce n'est pas celle-là. La propriété dont je parle est en Bretagne, sur les bords de la Rance. Nous n'avons jamais voulu la vendre, malheureusement elle est presque abandonnée, quoique la maison soit meublée comme jadis. » C'est là que nous irons, dans un cadre ancien qui vous plaira et loin de tous les vivants. » Elle souriait et se prenait à espérer, mais il n'était pas toujours auprès d'elle, et à chaque nouvelle visite, il avait la sensation que la solitude et le découragement accomplissaient leur œuvre destructive. Le lendemain du jour où Sophie Brion avait demandé un congé, Aubrun fut appelé le soir par M. Desjonchères, qui causait avec le docteur Zébron quand le policier arriva. « Eh bien, Aubrun, vous m'avez écrit que vous suivez votre piste avec beaucoup d'espoir. C'est bien long, n'avez-vous rien découvert ?»« Ma piste est bonne, de plus en plus j'en suis convaincu, » répondit Aubrun évasivement. « Rien de précis ? Rien. Grand Dieu ! S'écria Sébrone, et cette malheureuse enfant est en prison. J'assiste à sa douleur sans plainte, sans récrimination, mais si terrible que je la vois changer de jour en jour. Si elle tombe malade, si elle meurt, ce seront ces misérables magistrats qui l'auront tuée. Bernard, je t'en prie, à quoi penses-tu ? Mademoiselle de Plémont n'est pas malade. Une certaine dépression est naturelle, inévitable, mais non dangereuse. Qu'en sais-tu ? Tu n'es pas médecin, répondit brusquement Sébrone. Tu ne connais pas le résultat souvent fatal de telles secousses sur un organisme délicat. Il ne faudrait pas que l'épreuve se prolongeât, c'est le médecin qui parle en ce moment. Sans l'énergie, le ressort de son âme d'élite, Gertrude serait déjà très malade. Tu t'égares. De grâce, ne grossis pas les faits, répète-toi ce que tu répètes sans cesse à Mademoiselle de Plémont, c'est-à-dire, vois la fin heureuse de cette situation. Nous y touchons peut-être, n'est-ce pas, Aubrun ?
Je le crois.
Alors parlez, parlez ! S'écria Sébrone dans un élan de douleur irritée. Aubrun se félicitait tout bas d'avoir exigé le secret sur ses recherches et observait avec pitié les ravages du chagrin sur la forte constitution du docteur. 10 ans avaient passé sur lui, et bien que, dans ses occupations habituelles, il conservât son empire sur lui-même, on sentait l'homme énergique sur le point de s'affaisser. Aubrun, quels que fussent les écarts de sa vie, avait beaucoup de cœur, il sut le mettre dans le ton de sa réponse. « Je suis désolé, docteur, désolé de ne pas avancer plus vite, et je comprends trop bien votre profonde angoisse, mais je vous assure que plus que jamais, la prudence est nécessaire. Croyez-en mon expérience, tout va bien, et j'ai lieu de croire que je touche au but. »
Vous, au moins, vous ne doutez pas de Mademoiselle de Plémont, dit Bernard.
Je n'en ai jamais douté. J'ai des raisons actuellement pour en douter encore moins.
Aubrun, dit M. Desjonchères, il est temps de ne plus agir en dehors de la justice. Elle vous aidera, et un mot de vous, si vos présomptions sont fondées, mettrait fin à une situation intolérable.
Pour qu'un mot de moi mette fin à une situation intolérable, il est indispensable, n'est-ce pas, que je fournisse une preuve ou un enchaînement logique ?
Oui, c'est indispensable.
Eh bien, je n'en suis pas là. Accordez-moi encore 1 semaine. Ou j'aurai obtenu la preuve dont je vous parle, ou j'aurai vu que je suis un sot et que ma piste ne valait rien.
Faites pour le mieux, dit Sébrone qui marchait de long en large.
Avez-vous besoin d'argent ?
Non, mes recherches seront terminées, j'en ai la conviction, avant que j'aie dépensé les 4 000 francs que vous m'avez remis.
Monsieur Desjonchères suivit Aubrun dans l'antichambre.
Vos soupçons se basent-ils vraiment, Aubrun ?
Oui, j'observe cette femme à loisir et je continue à la croire coupable, bien qu'elle ait su se mettre à l'abri. A-t-elle exécuté elle-même le crime ? A-t-elle un complice et a-t-elle partagé avec lui le produit du vol ? Nous le saurons bientôt.
Mais vous affirmez simplement, il faut bien autre chose qu'une affirmation.
Je le sais et c'est pourquoi je demande un délai très court du reste. Elle dit avoir fait un héritage. Un de ses parents serait mort auprès de Blois à Ménard. Aussitôt son retour, j'irai à Ménard entre 2 trains. Si elle a menti, c'est un indice.
Ce ne serait pas une preuve, et l'enquête sur cette femme a été minutieuse.
L'enquête a-t-elle découvert que 2 ou 3 fois dans l'hiver, M. Darrault a confié son magasin à Sophie Brion de grand matin ? Elle y est restée seule pour le mettre en ordre.
Oui, je connais ce détail, mais les poisons étaient sous clé, M. Darrault est absolument péremptoire sur ce point. Il est non moins affirmatif sur l'honorabilité de la femme de charge.
Serait-il impossible que le pharmacien eût ignoré un incident quelconque, par exemple l'oubli de la clé dans la serrure de l'armoire au poison ?
Ce n'est pas impossible, mais c'est invraisemblable. Il répond de l'aide qui s'occupait seule avec lui de l'armoire.
Oui, et cette aide est morte, dit Aubrun.
Évidemment, reprit l'avocat, la conitine a été volée, mais M. Darrault affirme que le vol n'a pas pu être commis chez lui. Ensuite, si Sophie est la coupable, comment expliquer son alibi très sûr? Et elle eut prémédité aussi longuement son crime?
Certainement, dans mes soupçons, mieux que cela, dans ma conviction, il y a des invraisemblances, mais pas plus, à mon avis, que dans l'accusation portée contre la jeune fille. Devant le juge d'instruction, M. Darrot n'a pas spécifié exactement le moment où il avait accepté les services de la femme de charge.
Si, c'est dans les premiers jours de mars.
Époque où Mme de Plémont était très malade?
Oui.
Et pendant cette maladie, le docteur Sébron, qui employait de l'aconitine dans le traitement, a bien expliqué à Mlle Gertrude les effets violents du poison?
Oui.
Il ne se rappelle pas à quelle date, mais une troisième personne, croit-il, était présente.
Parfaitement. Mais pour lui, cette tierce personne était la sœur garde-malade.
Il n'en est pas sûr. Et j'ai bien noté le fait qui me paraît important. Je sais pertinemment que Sophie Brion avait besoin d'argent et d'une somme assez forte, très grosse pour elle en tout cas.
Ah, nous entrons dans le précis. Pouvez-vous le prouver?
Je prouverai mieux probablement. J'ai gagné la confiance de Sophie Brion, précisément en affectant de ne pas la désirer. Comment, au reste, se défierait-elle de M. de Lucelles, bon rentier et bon maître? En outre, vous savez quels besoins impérieux ont les femmes, surtout de cette classe, de parler d'elles et de leurs affaires?
Oui, je sais.
J'ajoute que celle-ci est relativement réservée. Quoi qu'il en soit, elle est engagée dans une affaire qui, devenue chez elle une idée fixe, le but de tous ses efforts, la fera découvrir si elle est coupable. Elle me consultera, je crois, sur des questions d'argent, et c'est alors que, s'il y a lieu, je mettrai la main sur la preuve.
Ah, j'oubliais, dit Aubrun en se frappant le front. N'a-t-on pas les numéros des valeurs dérobés à M. de Chantepie?
Je les ai dans mon cabinet.
Il me les faut demain matin.
Je vous les enverrai par pneumatique ce soir même. Ils vous parviendront demain à la première heure.
Aucune indiscrétion n'a été commise sur ces numéros?
Aucune. On a pris les plus extrêmes précautions pour que les journaux n'y fassent aucune allusion. Dans un cas semblable, on espère toujours une imprudence des coupables, les valeurs aux porteurs passant pour pouvoir se négocier sans danger.
C'est l'idée de la femme de charge, idée que j'ai eu le soin de fortifier.
Quand votre accusation aura une forme présentable, Aubrun, vous n'attendrez pas plus longtemps pour prévenir le magistrat.
Je l'exige absolument.
Je vous le promets, dans 3 jours peut-être, mais n'oubliez pas les numéros.
Je n'oublierai rien. Hâtez les choses si c'est possible. Vous avez vu combien mon pauvre ami est changé?
Il me fait pitié, mais si je n'agissais pas avec prudence, nous nous éloignerons du but. Si j'ai une communication importante à vous faire, le matin, est-ce au palais qu'il faut aller?
Oui, d'ici 8 jours et plus, j'y serai tous les matins.
Et monsieur de Monvoy?
C'est moins sûr. Cependant, il y a chance pour que vous l'y trouviez également.
Sébron attendait impatiemment monsieur des Jonchères.
Je me défie d'Aubrun, Henri. Il n'a rien découvert et veut faire l'important.
Mon impression est très différente et nous avançons vers une solution.
Il te l'a dit, mais...
Je ne l'aurais pas reconnu sous son nouvel aspect. Il espionne et ne ressemble pas à un espion.
Quel métier!
Ce métier sauvera une innocente.
C'est vrai, mais pensez que ces dessous honteux les fleurs, elles...
Hélas, continua Sébron avec amertume, nous n'en sommes plus à souffrir de ces côtés secondaires, puisque ces hommes l'ont mise en prison.
Pauvre Gertrude!
Ne pensons qu'aux résultats probables et prochains. Dans une circonstance aussi grave, Aubrun est incapable de se vanter par vanité.
« Qu'est-ce que c'est ? » dit-il au valet de chambre qui entrait.
« Un télégramme, monsieur. »
L'avocat lut tout haut.
« Mon cher Jonchère, venez me voir ce soir si ces mots vous arrivent à temps. Bien cordialement, mon voix. »
Une découverte heureuse, sans doute, s'écria Sébron. « Va vite, Henri, je t'attends ici. » Monsieur des Jonchères partit précipitamment. « Qu'y a-t-il » dit-il vivement en entrant chez le magistrat.
« C'est moi qui vous le demande.
Comment ?»«
Aubrun est filé. Je sais qu'il espionne la femme de charge. »
« Ah, bah !» dit Monsieur des Jonchères qui ne put retenir un sourire. « Et lui qui se croyait si sûr d'agir à votre insu. »
« On le connaît. On sait que vous l'avez plus d'une fois employé et j'ai été prévenu par la préfecture de police qui voyait, avec raison, une connexion entre le changement de domicile d'Aubrun, ses allures nouvelles et l'affaire qui nous occupe. D'autant que, influencé par les dénégations de Sébron, et bien que croyant à la culpabilité de Mademoiselle de Plémont, j'ai continué à faire surveiller Madame Brion. J'ai su ainsi qu'elle était entrée au service d'un monsieur de Lucel. Enfin, qu'a-t-il découvert ?
Il demande encore quelques jours pour donner de la tangibilité à ses soupçons. Il sait que Sophie Brion avait besoin d'argent et il croit à l'innocence de Mademoiselle de Plémont.
Ceci est une opinion. Et le besoin d'argent ne prouve pas que cette femme soit un assassin.
Assurément, mais la conitine a été volée. Aubrun sait que le magasin de M. Darrow a été confié à la femme de charge, et ce détail, auquel nous n'attachions aucune importance à cause des affirmations du pharmacien, ce détail, dis-je, est un jalon solide pour les déductions de mon agent.
C'est bien faible tout cela, Jonchères.
Cependant, si la femme de charge était allée le soir chez M. de Chantepie, le fait deviendrait une présomption.
Oui, et son besoin d'argent également, mais elle n'y était pas.
Aubrun suppose un complice.
Comment l'eût-elle introduit ? Comment eût-il été dans l'appartement au moment où Mademoiselle de Plémont y était elle-même ? Rien dans les enquêtes n'a confirmé ou simplement indiqué une telle hypothèse. Cependant, nous avons cherché. Quel complice ! Son fils, alors, seul intéressé au vol ? C'est un excellent garçon et nous connaissons l'emploi de sa soirée le jour du crime. Si Aubrun se trompe, nous le saurons d'ici peu, mais je crois prudent de n'entraver en rien sa marche. C'est mon avis. Aussi, nous le laissons agir sans intervenir, bien que convaincus de l'inutilité de son espionnage. Ce ne sera jamais qu'une perte de temps et d'argent.
Monsieur des Jonchères répéta à Sébron sa conversation avec Monsieur de Monvoy. Il le chargea de mettre à la poste le télégramme dans lequel il copia les numéros demandés par Aubrun.
Le juge d'instruction n'a pas ébranlé ma confiance dans l'habileté de mon agent, dit-il. Ses déductions se tiennent.
En recevant les numéros, Aubrun s'empressa de les apprendre par cœur. Il espérait, par une adroite manœuvre, amener la femme de charge à lui montrer les valeurs de son héritage fictif ou réel. Mais, selon toute probabilité, il ne pourrait pas les garder pour contrôler les numéros. Il était donc nécessaire de les avoir nettement présents dans sa mémoire. 3 jours après, Sophie revint prendre son service. Elle paraissait très satisfaite et, sans attendre de questions, parla de son héritage.
« Puisque monsieur s'intéresse à moi, je suis contente de lui apprendre que mon cousin a laissé de belles économies. »«
Je suis bien heureux de cette bonne nouvelle, Sophie, et vous félicite sincèrement. Votre cousin ne s'était pas marié ?»«
Si, monsieur, mais il n'a jamais eu d'enfant et ma cousine est morte il y a 10 ans. Il a mis de côté 12 000 francs, plus sa maison et son jardin. C'était un homme très rangé. »
Malheureusement, cet héritage n'est pas suffisant pour vous permettre d'acheter le fonds de commerce que vous désiriez.
Pourquoi donc, monsieur ? Je ne vois plus de difficultés, au contraire. La somme exigée par monsieur Marais se complétera avec les bénéfices du commerce ou un emprunt. Je suis heureuse, heureuse de cette bonne aubaine, parce que le rêve de mon fils va se réaliser.
Et le vôtre aussi. Vous méritez bien votre bonheur. Mais en bonne mère, vous ne pensez qu'à votre fils. Il est venu me parler l'autre soir pour me demander si vous étiez parti. C'est un charmant garçon.
Oh oui, monsieur, il est charmant. Tout le monde l'aime et à présent, il est bien sûr de réussir, d'être indépendant.
Aubrun désirait ardemment une ouverture sur les valeurs dont se composait cet héritage présumé, mais la femme de charge ajouta seulement que, dans la journée, elle irait parler au patron de son fils et s'entendre définitivement avec lui. Quelques heures plus tard, Aubrun descendait à Ménard. Ce joli endroit, que domine l'ancien château de Madame de Pompadour, était plein de roses, de lumière, de verdure, et Aubrun, poète jadis à ses moments perdus, alors qu'il aimait une femme par laquelle il avait été indignement trahi, fut saisi par la saveur embaumée de la campagne. Le contraste entre son métier et la pure nature dont la vue, la douceur, les parfums le reportaient à d'heureuses années de jeunesse lui fut pénible. Il écarta les regrets pour penser à la jeune fille accusée et prisonnière alors que le mois de juin fleuri rayonnait. Il eut tout à coup, sans savoir pourquoi, l'impression si vive de la culpabilité de Sophie Brion, de sa noire scélératesse, qu'il éprouva une violente colère contre cette femme. Puis il sourit de lui-même. « Et si elle n'est pas coupable ?» Il entra dans une petite auberge bien placée au bord de la route et très fréquentée par les rouliers. De la salle, ornée de dressoirs reluisants, chargé de vaisselle à grosses fleurs, on apercevait l'eau miroitante de la Loire au-delà d'un jardin plein de gueules de loup, de lys et de giroflées. À 7 heures de l'après-midi, il n'y avait personne dans l'auberge et, après avoir demandé des rafraîchissements, Aubrun questionna la femme qui le servait. « N'aviez-vous pas ici un maçon nommé Roland ?»« Roland ? Non, monsieur, je ne connais pas. » « Un patron décédé il y a quelques jours, m'a-t-on dit. »« Personne n'est décédé à Ménard il y a quelques jours, monsieur. »« C'est singulier. Alors on m'a donné une fausse indication. »« Oh oui, monsieur, très fausse. Il n'y a personne ici, ni dans les environs, s'appelant Roland. »« Mais autrefois, ce Roland a peut-être habité le pays ?»« Non, monsieur, certainement. » « Je ne suis pas jeune, j'ai toujours été dans cette auberge, ma défunte mère y était également, et jamais je n'ai entendu ce nom. Je connais tous les maçons des alentours. » Je cherche les traces de cet homme pour une question d'héritage. « Vous avez un notaire, Ménard ?»« Oui, monsieur, il habite une grande maison à l'extrémité du bourg, au milieu d'un jardin. Il y a une grille. » Aubrun éluda les questions de l'aubergiste, paya sa dépense et se dirigea vers la maison indiquée. Le notaire était sorti, mais un clerc répondit. « Ni décès, ni héritage de maçon ici dernièrement. Je connais deux patrons retirés à Ménard, mais ils ne s'appellent pas Roland et sont aussi vivants que vous et moi. » Alors on m'a induite en erreur. Ce Roland a pu mourir à Blois. « C'est facile à vérifier. Nous avons l'état civil de Blois et des environs dans un journal hebdomadaire. » Le clerc, très complaisant, examina le journal, puis le passa au policier. « Voyez-vous-même, il n'y a aucun nom ayant quelque ressemblance avec celui de Roland. Si j'entends parler de cet individu, faudra-t-il vous écrire ? Laissez-moi votre adresse, je me ferai un plaisir de vous rendre ce petit service. » « Merci mille fois, mais c'est tout à fait inutile. On s'est trompé ou j'ai mal compris. » Il se dirigea d'un pas rapide vers le chemin de fer. Il se sentait léger, heureux, en pensant à Gertrude et au docteur Sebron, car il avait assez de cœur pour que les promesses de Bernard fussent reléguées au second plan. « C'est suffisant, se disait-il en revenant à Paris, pour la dénoncer. Cependant, un mensonge n'est pas la preuve concluante. » Mais la voici entrée dans la voie des maladresses. Je compte sur une maladresse plus grosse encore que son invention d'héritage. Elle a confiance en moi, se croit complètement à couvert, et enfin est hypnotisée par l'idée d'établir son fils. Il a l'air d'un honnête garçon, pauvre diable. Il fut tenté d'aller le soir même chez M. de Monvoy, mais il se ravisa en réfléchissant que l'attente au lendemain n'offrait aucun inconvénient, puisque ses renseignements étaient maintenant assez précis pour lui permettre de précipiter les événements. Il avait joué son rôle avec tant de tact, l'intérêt qu'il avait manifesté à la femme de charge était resté dans des limites si justes que la confiance de Sophie était absolue. Elle lui dit, assez tard dans la matinée du lendemain, « Je suis allée hier chez Monsieur Marais, monsieur. »« Ah, vous vous êtes décidée ? Avez-vous été contente de lui ?» « Très contente, monsieur. Nous signerons le marché dans quelques jours. »
Tant mieux, tant mieux. Mais votre cousin n'a pas laissé 15 000 francs en argent comptant ?
Oh non, monsieur, il avait placé en valeur auquel je n'entends rien. Moi, j'ai toujours placé à la caisse d'épargne.
Je croyais que monsieur Marais tenait à de l'argent en espèces.
C'est vrai, il y tient absolument. Alors je voulais consulter monsieur.
Consulter sur quoi, ma bonne Sophie ?
Sur les valeurs de mon parent.
Eh bien, vous les ferez négocier par une société financière. Rien n'est plus simple si elles sont bonnes.
Comment bonnes, monsieur ? Pourquoi ne seraient-elles pas bonnes ?
Parce que des valeurs excellentes au début tombent quelquefois à rien ou ne présentent pas des garanties sérieuses. Espérons que votre cousin avait bien choisi.
Et comment le savoir, monsieur ? Le notaire ne m'a pas parlé de cela.
Je le crois bien, pensa Aubrun. Portez vos valeurs à un bureau quelconque du Crédit Lyonnais ou de la Société Générale, on vous renseignera et vous donnerez vos ordres pour la vente. Il la voyait embarrassée, hésitante, et attendait anxieusement sa décision, déterminée, si elle n'allait pas plus loin, à brusquer le dénouement.
« Monsieur m'inquiète en me disant que mes valeurs ne sont pas bonnes. »«
Mais je n'en sais rien du tout, ma brave femme. C'est une supposition et une réponse à vos paroles précédentes. »«
Monsieur veut-il les voir ? Il me dira ce qu'il en pense et ce que je dois demander à la Société Générale. »
« Vous n'avez pas besoin de moi. À la société, vous serez amplement renseigné. »«
Mais monsieur, je n'ai jamais eu ce genre de valeur entre les mains et j'aurais l'air de ne rien savoir. »«
Vous n'avez donc pas questionné le notaire qui vous les a remises ?»«
Très peu, monsieur. Mais il m'a dit qu'elles représentaient une somme de 12 000 francs. Il n'a pas dû se tromper. »«
Mon Dieu, je veux bien. » Montrez-les-moi, je vous expliquerai les nécessaires et vous dirai, d'après mon journal, à quel cours vous devez faire vendre.
Je voudrais bien en avoir le cœur net. Monsieur va sortir ?
Oui, je déjeune chez un ami. J'ai oublié de vous prévenir hier.
Alors, si monsieur le permet, je vais aller chercher mes papiers.
Faites. Aubrun, dévoré d'impatience, eut quelque peine à attendre de sang-froid le retour de la femme de charge. Il comptait les secondes et, comme elle tardait, il craignit d'avoir éveillé sa défiance. Mais, après réflexion, il comprit que cette crainte n'était que le résultat d'une idée toujours fixée sur le même point. Même en cette minute si palpitante pour lui, il n'avait témoigné ni hâte ni empressement à répondre. La femme de charge, au contraire, se félicitait d'être tombée sur un maître assez bon pour s'intéresser à son affaire et l'aider à éviter un faux pas, car se sentant sur un terrain inconnu, elle était heureuse d'obtenir des conseils désintéressés. En parlant un jour de Madame de Plémont, elle était revenue sur le point, capital pour elle, de la négociation des valeurs. Aubrun, avec prudence mais autorité, avait saisi cette nouvelle occasion pour dissiper ses vagues inquiétudes. Ce fut donc fort tranquillement qu'elle lui remit des actions et des obligations de chemin de fer dont il reconnut aussitôt les numéros. Quelles que fussent ses habitudes d'impassibilité, Aubrun craignit de se trahir, tant son émotion fut extrême. Son premier mouvement eût été de se jeter sur elle pour l'arrêter, mais prolongeant simplement son examen afin de se remettre, il lui dit de sa voix calme « Ses valeurs sont excellentes. » Monsieur Marais devrait les accepter au lieu de vous entraîner à des frais en les négociant.
Et s'il ne veut pas ?
Alors vous les vendrez, mais je vous conseille de les lui soumettre. À moins de placer son argent dans des affaires industrielles que j'ignore, il ne trouvera pas de meilleur placement, à mon sens du moins.
Je suivrai l'avis de monsieur.
Devant lui, elle roula les papiers de façon à les introduire dans sa poche, dont elle attacha l'ouverture avec une épingle fermée.
« C'est trop gros. Ces papiers vous gêneront pour travailler, » dit Aubrun en riant. « Ce n'est pas bon à laisser traîner, monsieur. De cette façon, je suis sûre de ne rien oublier et rien perdre. »
Il la laissa sortir, puis, un instant après, il sonna. « Je vous ai dit, je crois que je déjeunais chez un ami. Si vous voulez en profiter pour vous en aller dès 1 heure, je vous laisse toute latitude, puisque vous avez des affaires à régler. »
« Monsieur est bien bon, j'accepte volontiers.
J'irai entre 1 h 02 voir M. Marais et lui montrer les valeurs. »
Aubrun sortit sans se presser, mais dans la rue, il se jeta dans un fiacre automobile qu'il eut la bonne fortune de rencontrer au coin de la rue Madame, et un quart d'heure après avoir quitté son appartement, il gravissait en courant les marches du palais de justice.
« Monsieur de Jonchère est-il là ? Et Monsieur de Monvois ? » demanda-t-il tout haletant à un huissier.
« Si Monsieur de Jonchère est là, oui, vous le trouverez dans la salle des pas perdus. Et il y a longtemps que Monsieur de Monvois est arrivé. »
Aubrun, suivant les indications qu'on lui donnait, parvint à la célèbre salle où il aperçut M. Desjonchères, en robe d'avocat, la toque en arrière, qui causait avec animation au milieu d'un groupe de confrères.
Aubrun se précipita vers lui.
« Ah ! Vous avez perdu votre impassibilité d'emprunt, Aubrun. Eh bien ?»«
Eh bien, elle est prise. J'ai la preuve matérielle. »
« La preuve indiscutable, s'écria M. Desjonchères avec la plus grande émotion.
« Indiscutable, je viens de tenir entre mes mains les valeurs de M. de Chantepie. »«
Qu'est-ce, Jonchères ? » demandèrent les avocats qui assistaient à ce colloque. « S'agit-il de Mlle de Plémont ?»«
Vivat, messieurs, elle est innocente. »
Il saisit Aubrun par le bras, courut avec lui au cabinet de M. de Monvois et demanda à être introduit d'urgence. L'huissier, étonné de son agitation, voulut protester, mais M. Desjonchères, passant devant lui, frappa vigoureusement à la porte et attendit à peine la permission d'entrer pour se précipiter dans le cabinet où le juge était seul avec son greffier. Stupéfait d'une entrée si peu en rapport avec la correction habituelle de M. Desjonchères, le magistrat se leva en s'écriant
« Mon Dieu, mais qu'y a-t-il ? C'est donc bien important ?»
« Parlez vite, Aubrun, en deux mots. »«
En deux mots, je viens de voir les valeurs de M. de Chantepie entre les mains de son ancienne femme de charge. »«
Bravo, bravo !» s'écria le greffier dans un élan d'enthousiasme, pendant que M. de Monvois, interdit et très pâle, se rasseyait lentement.
« Vous êtes certain de votre dire ? Il n'y a pas d'erreur possible ?»«
Pas d'erreur possible. Cette femme est chez moi, elle y restera jusqu'à 12h. » Qu'on l'envoie chercher, elle a les valeurs sur elle.
M. de Monvois fit venir aussitôt deux agents de la sûreté. Il donna à l'un l'ordre de lui amener Mme Brion.
Vous la trouverez chez M. de Lucelles, 180 rue d'Assas.
Si elle s'inquiète et refuse de me suivre, que faudra-t-il faire ?
L'arrêter immédiatement, mais vous pouvez ne pas l'effrayer en lui parlant de renseignements à donner sur M. de Chantepie. Je l'ai questionnée plusieurs fois.
Vous dites, Aubrun, qu'elle a les valeurs sur elle ?
Oui, dans sa poche. Je l'ai lui vu mettre, elle a attaché soigneusement l'ouverture.
Vous veillerez à ce qu'elle vienne ici sans modifier sa toilette, dit M. de Monvois à l'agent.
Allez, vite !
Il écrivit un mot au directeur de la prison et le remit à l'autre agent.
Trouvez une automobile et courez chercher Mlle de Plémont.
Après cela, il cacha un instant son visage dans ses mains et on l'entendit répéter plusieurs fois
« La pauvre enfant ! La pauvre enfant ! J'en serais malade de chagrin !»«
Et c'est Brune, et la mère » dit-il en relevant la tête.
« Je cours chez Bernard, dit l'avocat. Ma plaidoirie est terminée. »«
Allez, il est près de midi, peut-être sera-t-il rentré. »«
Ah, un mot, et la conitine ! Cette femme en connaissait donc les propriétés ?»
« Rien de plus vraisemblable, répondit M. Desjonchères. Vous savez, par Mlle de Plémont elle-même, que Sébrone lui avait donné des explications sur les effets du poison. Une tierce personne était là, mais ni Bernard ni la jeune fille ne se sont rappelés si c'était la femme de charge ou la garde-malade. Ils penchaient pour cette dernière hypothèse.
Et Sébrone, du reste, s'est bien gardé d'insister sur cette conversation si compromettante pour l'infortunée jeune fille. » dit M. de Monvois.
Il accompagna M. Desjonchères en dehors du cabinet.
« Je suis désolé, désolé, en pensant à Mlle de Plémont. Que nos prétentions de discernement et de déduction logique, quand le hasard et un pauvre policier de fantaisie détruisent nos savants échafaudages. C'est pitié, Jonchères, n'est-ce pas ?»
Les faits accusaient Mlle de Plémont, et, je vous l'avoue maintenant, je partageais votre manière de voir. L'astuce et la préméditation de cette femme sont inouïes, s'écria M. de Montvoix.
Il rentra dans son cabinet et questionna Aubrun, qui ne demandait qu'à raconter par quelle déduction logique, et prenant le contre-pied de l'enquête officielle, il était parvenu à la vérité.
J'ai cru plus d'une fois ne pas réussir, car cette misérable se possède étonnamment, au point que, en constatant son absence apparente de crainte, j'ai douté. Mais j'ai commencé à être sûr de ma piste quand, après avoir gagné sa confiance en lui parlant avec intérêt de son fils, elle me parla d'acheter pour lui un fonds de commerce. C'était son rêve, son idée fixe, et les circonstances la pressaient.
Comment cela ?
Le patron de son fils était en marché avec un autre acquéreur et n'avait donné qu'un mois à Sophie Brion pour se décider et trouver les fonds.
Pourquoi n'attendait-elle pas un autre fonds de commerce ?
Ils sont tous les mêmes. Ils combinent habilement et creusent eux-mêmes le trou où ils tomberont.
Elle poursuivait son idée de voir son fils devenir patron de la maison où il travaillait comme petit commis.
J'ai vu sa vanité piquer au vif parce que M. Marais haussait les épaules quand elle lui parlait d'acheter le magasin.
La négociation des valeurs l'aurait toujours trahi. Elle l'ignorait absolument.
Oui, et j'ai eu deux fois l'occasion de la maintenir dans son erreur.
Enfin, il fallait une invention quelconque pour expliquer qu'elle possédait la somme demandée par le commerçant.
Elle me dit donc, il y a 5 jours, qu'elle héritait d'un cousin éloigné, mort à Ménard, auprès de Blois. J'y suis allé hier et j'ai constaté son mensonge. Ce matin, un peu embarrassée de ses valeurs, sur lesquelles j'émettais des doutes, elle m'en a montré une partie en me demandant des explications pour les négocier.
Pendant qu'Aubrun entrait dans les détails de son habile campagne, M. Desjonchères courait chez le docteur Sébron.
Il venait d'arriver, plus fatigué, plus malheureux que jamais.
« Sauvé !» lui cria son ami. « Sauvé, Bernard, mon cher Bernard !»«
Voici un mois qu'on me leurre avec cet espoir, » répondit Sébron d'un ton incrédule.
« Ce n'est plus de l'espoir, mais une certitude. La femme de charge est la coupable. » Aubrun a vu entre ses mains les valeurs de M. de Chantepie.
Est-ce certain ? Dit Sébron d'une voix étouffée.
Je te le jure. Vite, viens avec moi chez le juge d'instruction. Aubrun fait sa déposition, on a envoyé chercher cette horrible créature qui sera arrêtée séance tenante, et Mademoiselle de Plémont arrivera au palais dans un instant. Partons, j'ai dit en passant à ton cocher de ne pas dételer. Ta voiture est prête.
Et la mère ? Dit vivement le docteur.
Tu lui amèneras sa fille, mais je suppose qu'il ne faut pas brusquer pour elle le dénouement, quelque heureux qu'il soit.
Ce serait la tuer.
Sébron appela son valet de chambre.
Prenez un fiacre et allez à la maison de santé. Vous direz à la directrice que l'innocence de Mademoiselle de Plémont est reconnue, qu'elle prépare doucement Madame de Plémont à voir sa fille. Partez sans retard.
« Le fiacre qui m'a amené m'attend à la porte. »« Qu'il le prenne, » dit M. Desjonchères, « puisque je vais avec toi. »